D'une part, j'ai une doctorante qui est très très bien, qui fait sa thèse sur les contraintes que fait peser sur l'action collective de la gauche radicale états-unienne l'extension de la catégorie de l'antiterrorisme. Donc elle travaille vraiment sur la gauche radicale aujourd'hui. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Et puis l'autre chose qui n'a pas grand-chose à voir, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la violence et aussi sur un troisième cas de violence qui peut intéresser la Fondation, qui est un livre que j'ai fait, enfin une biographie que j'ai faite de Jean Brugier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. C'était quand même une grande figure du Parti communiste. Enfin, il était Parti communiste et surtout, il était un des sous-marins envoyés par le PC pour faire les sales guerres, des guerres coloniales. Et donc, j'ai fait tout un travail à partir de sa bio et des quelques témoignages des survivants de cette histoire sur comment on fait pour participer à des sales guerres, à des guerres que l'on réprouve, puisque lui, il a tout fait. Il a fait l'Indochine, la Tunisie, l'Algérie, etc. Mais bon, je referme. Alors, effectivement, j'ai une certaine... un certain intérêt pour les marges politiques. Et jusqu'à quelques années, les marges politiques et la question de la violence, enfin, à partir de ma thèse, c'était les années 70 qui m'intéressaient, étaient effectivement autour de l'extrême-gauche. Et puis, depuis quelques années, eh bien, c'est autour de l'ultra-gauche, avec des guillemets. Et c'est sur cette ultra-gauche, je vais m'en expliquer, que mon intervention va porter. J'ai repris le titre que vous m'aviez proposé, ZAD autonome Black Bloc, même si l'ensemble, effectivement, participe, de mon point de vue, à cette nébuleuse de l'ultra-gauche que je vais essayer de vous présenter. Alors, quelques mois avant que n'éclate l'affaire Coupa, l'affaire dite de Tarnac, c'était en novembre 2008, est-ce qu'il faut que je rappelle ou non? Eh bien, les RG font habilement sortir et rendent plus ou moins public un rapport qui s'intitule « Du conflit anti-CPE » 2006, c'est le conflit anti-CPE, contrat première embauche, « à la constitution d'un réseau pré-terroriste international, allons-y, regard sur l'ultra-gauche française et européenne ». Et dans ce rapport dont quelques feuilles sortent dans le Point au mois de mai 2008, et ce qui va préfigurer cette fameuse affaire Coupa-Tarnac, eh bien, les RG évoquent 70 passages à l'acte violent de janvier 2008 au printemps de janvier 2006, pardon, au printemps 2008, et désignent donc l'ultra-gauche comme préparant un réseau. Un réseau donc pré-terroriste. Et puis, 8 ans après, l'ultra-gauche est à nouveau désignée par la Direction générale de la Sécurité intérieure, c'est en juin 2016, comme une menace qui, je cite, sous la direction du réseau affinitaire Coupa, serait à la pointe du combat insurrectionnel. Et il évoque même une stratégie de la tension. Stratégie de l'attention, qui est le terme qui avait été utilisé pour parler de la polarisation entre l'extrême gauche et l'extrême droite en Italie au cours des années 70. Donc vous voyez comment cette menace aujourd'hui s'est construite au fil donc de quelques années. Alors on a quelques affaires dont tu en évoquais une dans les dernières années. Alors avant la mort de Rémi Fraisse. Donc en octobre 2014, il y a la mort de Clément Méric. Il y a eu le procès ils partent en appel, où deux militants d'extrême droite, enfin d'ultra-droite, ont été condamnés. Clément Méric était un militant antifa, de l'action antifasciste Paris-Banlieue, qui est un réseau antifasciste très proche quand même effectivement des ticouniens, donc de la mouvance Coupa. On a eu donc l'année suivante la mort sous le coup des forces de l'ordre donc de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivens alors qu'il venait d'arriver. C'était plutôt un promeneur, si je puis dire, c'était pas un résident. Et puis dernier épisode, enfin il y en a d'autres, mais le dernier épisode c'est ce qui s'est passé au 1er mai de cette année, hein, avec 1200 Black Blocs, voici un nouveau groupe, qui se trouve donc dans le cortège de tête constitué de 14 500 personnes, hein, alors que le défilé officiel, hein, derrière les banderoles, hein, compte entre 20 et 55 000 manifestants officiels. Un an auparavant, c'était le 1er mai donc 2017, eh bien, ces Black Blocs, ils étaient déjà présents, hein, ils sont, enfin, je vais y revenir, ils sont présents depuis quelques années, mais ils n'étaient que 150 dans un cortège de tête de 800. Donc vous voyez quand même la progression considérable. Alors il faut dire que le contexte était quand même très particulier, hein, marqué à la fois par les suites toujours de la ZAD pionnière de Notre-Dame-des-Landes, hein, mais également du mouvement étudiant contre Parcoursup, hein, et du cinquantenaire de mai 68, hein, qui a beaucoup joué dans cette affaire. Et tout cela a fait qu'il y a eu une convergence sur Paris, hein, de deux des groupes un peu historiques de l'ultra-gauche, hein, que sont les Allemands et les Uriquois d'un côté, et les Italiens de l'autre, qui ont beaucoup été en France à ce moment-là. Alors, ça a été, ça a beaucoup fait la une des journaux, ça a semblé un peu choquant, hein, avec 31 commerces dégradés, hein, 6 véhicules incendiés, 6 autres dégradés, 4 blessés, hein, légèrement. Moi, je suis un peu iconoclaste, je considère que 1200 Black Blocs qui ne font que ça, c'est qu'ils sont très clairement dans une stratégie qui n'est pas une stratégie offensive pour le moment, qui est autocontenue. Mais bon, on y reviendra sans doute dans la discussion. Tout cela pour dire, hein, que ce qui apparaît le plus radical aujourd'hui, eh bien, ce sont ces mouvances-là, hein, et elles inquiètent par rapport à la question de la violence et éventuellement de leur capacité d'organisation, hein, pour lancer un processus insurrectionnel auquel je ne crois pas. Et la radicalité est souvent associée justement à l'usage de la violence. Alors, pour ma part, hein, j'ai défini un engagement radical, hein, comme celui qui, à partir d'une posture de rupture vis-à-vis de la société d'appartenance, hein, accepte, au moins en théorie, le recours à des formes non conventionnelles d'action politique, éventuellement illégales, voire violentes. Donc il s'agit de mouvements qui sont révolutionnaires. Cela étant, comme le soulignent dans un tout autre contexte Fabien Carrier et Bonelli à propos de la radicalité djihadiste, eh bien, la radicalité, il faut comprendre, c'est toujours une définition relationnelle, hein, et une co-construction, hein, puisque être radical, c'est à la fois une transgression à la norme qui est perçue comme subversive de l'extérieur. Alors, je vais, dans mon propos, hein, je pense qu'il est important d'abord de cerner ce qu'est cette nébuleuse, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont associés, hein, avant de voir son rapport à la violence et la réalité de l'action violente de ces groupes. Alors, l'ultra-gauche, hein, est un terme qui est largement rejeté, hein, par celles et ceux que l'on désigne ainsi, hein, mais l'ultra-gauche a des matrices historiques qui sont très précises à tester, hein. Alors, j'espère ne pas faire d'erreur parce qu'il y a d'éminents historiens ici, hein, mais l'ultra-gauche, elle puise en effet ses racines dans la contestation dite de gauche du marxisme-léninisme, et en particulier dans la gauche communiste, représentée entre autres par Rosa Luxembourg, Anton Pankuk, et ensuite dans la tradition conseilliste des années 1919-1920, hein, inspiré par Pankuk, avant de se nourrir de l'influence de socialisme ou barbarie, donc entre 1948 et 1967, et de l'international situationniste, là c'est entre 1957 et 1972. Et dernière influence, c'est le mouvement autonome venu d'Italie, qui à l'origine a incubé au sein du Parti communiste italien, hein, mais qui, au fil du temps et des importations dont il a fait l'objet, hein, et particulièrement en France, a pris un parfum beaucoup plus anarchisant. Alors, je vous ai fait une frise chronologique, là, hein, pour vous montrer, alors, qui est très très simplifiée, hein, parce que c'est des micro-groupes, bon, pour que ce soit lisible, je l'ai vraiment simplifié. Hein, mais comme vous pouvez le voir, en cette mouvance appelée ultra-gauche, hein, a connu depuis 68 deux temps de croissance. Hein, le premier, eh bien, correspond à l'importation en France que j'évoquais du mouvement autonome, donc à partir de 74 avec Marge ou Camarade. Bon, ça se termine, le fait d'acte en quelque sorte le plus important de l'époque, hein, c'est la fameuse intervention de ce mouvement autonome français dans le cadre du conflit de la Sidonie, hein, lors de la manifestation très violente, hein, du 23 mars 1979. Bon, qui va se désintégrer, se retirer plus ou moins à partir du début des années 80, en tout cas se mettre plutôt dans la mouvance, dans les squats politiques, là, donc plutôt contre-culturel, une rétraction, hein, notamment du fait justement, hein, du passage de certains, les petits rouges-bruns, bah, de l'autre côté, hein, du spectre de l'ultra-droite. Et puis le second moment, donc vous voyez, hein, là j'ai mis bon, Marge, vous voyez, à peu près, Marge, Camarade, hein, les Fossoyeurs du Nouveau Monde, un groupe qui était un groupe armé, hein, au Cangaceros. Dans les années 80, hein, eh bien, ce que l'on observe, c'est la mouvance antifasciste, hein, plutôt, hein, puisque j'ai mis en bleu foncé les groupes autonomes stricto sensu, hein, en bleu plus clair la mouvance antifa, donc là j'ai mis Scalp Nopasaran. Et puis, je vais expliquer après, hein, une troisième mouvance, qui est la mouvance anti-industrielle, avec l'encyclopédie des nuisances et pièces et main-d'œuvre, dans le cadre duquel aujourd'hui se situe le mouvement antispéciste. Hein, donc le phénomène. Et puis en jaune, les mobilisations qui ont été des mobilisations où ces groupes, dont les groupes se sont nourris, hein, et ont retrouvé une visibilité dans le deuxième temps, donc, de développement de ce mouvement, c'est à partir du début, à partir des années 2000, hein, avec successivement les mobilisations les mobilisations altermondialistes, hein, et ce dès le contre-sommet de l'OMC à Seattle en novembre 99, hein, où l'intervention des Black Blocs, hein, va conduire à l'état de siège, hein, et à mettre au devant de la scène, hein, ces images de violence, hein, qui accompagne pendant un certain temps les contre-sommets avant que ceux-ci se délocalisent dans des endroits absolument impossibles d'accès, comme Doha, etc. Autre temps, hein, de développement dans ces années 2000, bon, mouvement altermondialiste, la mobilisation contre le contrat première embauche, donc on est en 2006, contre la loi travail en 2016, hein, très très important, et avec le développement également des ZAD, des zones à défendre, en premier rang desquelles la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à partir du début des années 2010. Enfin, c'était bien antérieur. Mais la mobilisation autour de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment à partir de ce moment. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, vous m'arrêtez, parce que si vous êtes parfaitement au fait, j'avance, comme ça je parlerai moins. Hein. Alors, je disais tout à l'heure, la radicalité, hein, c'est un point de vue relationnel. Hein. On est toujours radical par rapport à quelqu'un d'autre qui vous définit comme tel. Et donc une co-construction, ce qui est particulièrement évident en s'agissant des Black Blocs. Parce que les Black Blocs, hein, c'est un terme qui a été inventé par la police allemande dans le cadre des luttes, des mobilisations antinucléaires, des années 80, hein, pour désigner des individus masqués, habillés en noir, qui, bah, comme les autonomes des années 70, se livrent à des destructions de biens et à des harcèlements de la police au cours des manifestations, et d'abord des manifestations donc altermondialistes. Alors, le Black Bloc est très certainement un fantasme, hein, si l'on pense à une organisation structurée, hein, avec une stratégie violente concertée. Il s'agit de petits groupes variés, ce qui n'empêche pas, bien entendu, la coordination, hein, qui ont des sensibilités anarchistes qui les amènent donc à justifier le recours à la violence contre les biens, hein, puisqu'ils attaquent de façon privilégiée ce qu'ils considèrent être les symboles du capitalisme, hein, les banques, dans les manifestations altermondialistes, les enseignes de multinationales, Nike, Levi's, etc., McDonald's et tout, hein. L'objectif en étant à la fois de causer des dommages matériels aux entreprises en question, hein, et de s'attaquer à leur image. Et le pillage, hein, il est justifié, hein, comme une juste réappropriation sur le vol capitaliste. Voilà. Et puis, c'est l'occasion également, hein, de faire des manifestations, hein, des zones temporaires, des zones autonomes temporaires, hein, pour reprendre l'expression d'un auteur dont se revendique beaucoup ses mouvances, hein, qui est de la contre-culture américaine, qui est Akinbé. Je vais y revenir tout à l'heure. Les ZAD maintenant. Voilà, pardon, j'en étais là. Les ZAD, là, c'est un néologisme militant, hein, qui détourne donc l'acronyme des zones d'aménagement différées contre lesquelles il lutte, et en dénonçant donc les grands projets inutiles et imposés, hein, en occupant ces zones. Et cette occupation est également l'occasion pour les zadistes, d'expérimenter des modes de vie alternatifs, notamment avec l'écologie, la permaculture, etc. Alors, début. Donc, il y aurait en 2016 entre 10 et 15 ZAD. Là, bon, c'est une carte, hein, des plus importantes. Hein, la plus connue étant donc évidemment Notre-Dame-des-Landes, hein, occupée depuis 2008, maintenant. 2008, qui est la date à partir de laquelle, hein, le terme officiel de zone d'aménagement différé est détourné. Mais antérieurement, à Notre-Dame-des-Landes, hein, vous avez eu toute l'affaire autour du tunnel du Somport, avec la grève de la faim d'Éric Pététain, c'est en 1994, hein, ou encore, hein, la mobilisation qui dure depuis les années 90, hein, qui est la mobilisation dite NOTAV, contre le TGV Lyon-Turin, hein, avec une mobilisation très très forte côté italien. Alors vous en avez d'autres, hein, la décharge du Nonan, le projet du grand stade de Lyon, le plateau des Mille Vaches, sont donc plutôt des ZAD rurales, même s'il y a quelques ZAD urbaines, hein, qui renvoient aux squats urbains, hein, comme la ferme des Bouillons, hein, contre Auchan, aux alentours de Rouen, hein, qui est une ZAD qui existe depuis 2012. Alors, je vais peut-être pas vous... on va voir ça après. Alors, à partir des tracts de la mouvance ni CPE ni CDI, qui était une mouvance donc dans le cadre de la mobilisation anti-CPE, hein, de 2006, vous aviez la tendance ni CPE ni CDI constituée donc de l'ultra-gauche, hein, là aussi avec une occupation qui a été un saccage, il faut bien le dire, de l'école des hautes études en sciences sociales, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, notamment. Hein. Et bien, à partir d'une analyse des tracts de cette mouvance, Paolo Stupia avait, qui est un chercheur, hein, avait distingué trois groupes que l'on retrouve dans d'autres pays, hein, et qui participent de cette nébuleuse donc de l'ultra-gauche, hein, qui navigue entre d'une ZAD, d'un Black Bloc, etc. Alors, d'une part, les épigones de l'international situationniste, ou encore les post-situ, qui reprennent donc ils s'appellent eux-mêmes les post-situ, hein, qui reprennent donc au fondateur de l'international situationniste Guy Debord le principe suivant, hein, qui est la construction de situations, hein, c'est-à-dire il faut construire des ambiances momentanées de vie, hein, et les transformer en qualité passionnelle supérieure, ainsi que dans le détournement. Et ce principe de la construction de situations, hein, a inspiré justement Akinbé, hein, l'anarchiste américain Akinbé, pour théoriser les zones autonomes temporaires, les TAS, hein, qui est un concept forgé Alors bon, ça va peut-être paraître un peu tout ça un peu exotique, on va dire, qui est un concept qu'il a forgé hein, à partir des utopies pirates, hein, c'est-à-dire de la constellation des enclaves gouvernées par les pirates du XVIIIe siècle, dont s'inspirent beaucoup ces mouvances ultra-gauche. Donc la TAS, la zone autonome temporaire, hein, c'est un, je le cite, un soulèvement qui ne se confronte pas directement avec l'État. C'est une opération de guérilla qui libère une ère de temps, de terre, d'imagination, et ensuite se dissout pour se reformer dans un autre lieu, dans un autre temps, avant que l'État ne puisse l'écraser. Donc, en vertu de ce principe, hein, eh bien, il faut libérer des portions de territoire de l'emprise étatique, soit dans le cours de manifestations, soit dans des zones que sont les ZAD. Hein. Donc, il faut se rentremettre d'un territoire sur un temps donné hein, et qui donc est soustrait à l'emprise étatique. Alors, ces postes situent, revenir là, hein, donc cette première tendance hein, s'exprime en France au cours des années 80-90 dans la revue L'Encyclopédie des Nuisances que j'ai mis là, hein, donc, ou dans le bulletin Les mauvais jours finiront hein, entre 1986 et 1993. Deuxième ensemble, ce sont les autonomes qui sont donc apparus, comme je vous le disais, en France. Je surveille ma montre. À partir de 74, mais aussi très influencé par les situationnistes, parce que bon, ces trois ensembles, c'est pour vous donner à voir, mais bon, voilà. Vous savez, les sociologues, on adore typologiser, et puis bon, on met des étiquettes sur les gens, mais les gens, ils sont à la fois autonomes, post-situés, etc. Ces autonomes, ils reprennent à leurs homologues italiens hein, la valorisation de l'action directe. Donc l'autoréduction, les autoréductions, ça consiste à ne payer qu'une partie des services publics, hein, comme l'électricité, ou les biens privés, comme une place de cinéma, hein, voire à ne rien payer du tout. Hein, voilà. Par exemple, en faisant le marché politique, le marché politique, c'est-à-dire aller faire son marché et puis partir sans payer. Autre forme d'action valorisée, eh bien, ce sont les squattages, évidemment, hein, l'investissement émeutier des manifestations et, à l'occasion, le braquage de banques. Donc, avec frise la délinquance. Troisième mouvance, qui est une mouvance montante, mais vraiment montante, hein, eh bien, c'est la mouvance anti-industrielle. Alors, elle se caractérise par le refus de la révolution industrielle, hein, c'est-à-dire à la fois du machinisme et de la technologie, hein, et d'y puiser ses racines lointaines hein, dans le mouvement ludite. Le mouvement ludite, hein, qui est un mouvement de protestation hein, marqué par les bris de machines hein, réalisées par des compagnons anglais hein, du textile dans les années 1811-1812 pour lutter contre la mécanisation. Et puis, à partir des années 70, eh bien, cette mouvance anti-industrielle hein, se rattache à la tendance dite anarcho-primitiviste de deux Américains, que sont John Zerzan. Alors, John Zerzan, c'est un anarcho-primitiviste hein, qui prône le retour, je savais, enfin, c'est très exotique, hein, qui prône le retour à une société de chasseurs et de cueilleurs. Et puis un autre que vous connaissez sans doute, enfin, vous avez des chances de connaître plus, qui est Theodore Kaczynski, dont le surnom était Una Bomber, hein, puisque Kaczynski, hein, c'est un mathématicien, hein, un universitaire mathématicien, hein, qui ensuite hein, va commettre une série d'attentats aux États-Unis entre 1978 et 1995 par colis piégés contre d'anciens collègues et contre des sociétés, hein, pour protester contre la société industrielle. Et il, en 95, il est arrêté et il purge depuis une peine de prison à perpétuité incompressible. Voilà, les trois. Alors, vous voyez un ensemble, hein, on va dire, plutôt nébuleux. Hein. Alors, j'ai repris là un graphique, enfin, pas un graphique, hein, établie par Guillaume Origoni pour la Fondation Jean Jaurès, avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, hein, mais bon, qui vous donne un peu les différents groupes, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que les anarchistes, en tout cas ceux-là, ne se reconnaissent pas complètement dans cette mouvance. Mais enfin bon, la mouvance Antifa, donc avec maintenant Action Antifasciste Paris-Banlieue, hein, et puis les différents collectifs que l'on trouve, alors pour beaucoup à Marseille, hein, avec les mobilisations contre le bastion social, Strasbourg, Rennes, Nantes, etc. Hein, milieu antifasciste a considérablement changé depuis les groupes que je connaissais bien, qui étaient Scalp, No Passaran, etc., hein, à partir de 2010, hein, avec des collectifs qui sont souvent assez éphémères, et de plus en plus, alors bon, là, c'est pas le cas, parce qu'on marque Marseille, etc., à la campagne, parce que la virulence, on va le voir, de l'ultra-droite, se situe surtout à la campagne, c'est un phénomène plutôt rural. Les mouvements de jeunesse, avec le fameux Mili et Génération Ingouvernable, les zadistes, hein, les appellistes, hein, ce sont les partisans de coupage, je vais y revenir. Hein, et puis quelques médias, hein, comme Rébellion Info, là, hors de ces des Antifa, Réflexe Antifa également, et évidemment des maisons d'édition. Ben, Agone, je pense que c'est excessif de les mettre dans cette mouvance. Alors, il est délicat de dresser une cartographie de cette mouvance, hein, du fait de son caractère non organisé, très labile, du fait également d'une certaine patrimonialisation des zones d'influence, hein, des différents groupes. Par exemple, Rouen est plutôt sous les auspices de Coupa, hein, donc Ticounien. Dijon est plutôt marqué par le collectif Mauvaise Troupe. Hein. Et puis surtout, c'est une mouvance qui est traversée par des querelles assassines, propre heureusement, hein, qui conduit les groupes à s'excommunier mutuellement de l'ultra-gauche. Alors, ils rejettent l'appellation ultra-gauche, mais en même temps, ils disent « Ah mais non, mais les antifas, ils ne font pas partie de l'ultra-gauche, etc. » Alors, trois grands ensembles, on va dire, présents aujourd'hui en France, hein, en dehors de la mouvance antispéciste, etc., ce sont donc les Ticouniens, hein, qui sont les plus médiatisés avec l'affaire de Tarnac, hein, et les nombreuses publications à très grand succès signées du comité invisible. Hein, bon, mais en fait, c'est Coupa, hein, c'est le groupe de Coupa, hein, avec l'insurrection qui vient, hein, là, la fabrique, donc là, effectivement, la fabrique en 2007, à nos amis, toujours à la fabrique en 2014, l'année dernière, maintenant. Alors, les Ticouniens tiennent leur nom de leur revue, Ticoun, qui a sorti deux numéros entre 1999 et 2001. Hein. Ticoun, c'est un terme issu de la Kabbale, hein, qui signifie réparation, restauration. Hein, et cette revue était sous-titrée « Organes conscients du parti imaginaire, exercice de métaphysique critique ». Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une revue et des livres qui sont pas d'accès facile, on va dire, hein, fortement influencés par des philosophes italiens Giorgio Agamben, français Michel Foucault ou encore Gilles Deleuze. Et c'est une dimension extrêmement, extrêmement intellectuelle. Autre collectif, c'est le collectif Mauvaise Troupe. Qui lui aussi, hein, il y a beaucoup de production intellectuelle, hein, autour de, à la fois dans les sites, dans les livres, hein, etc. Hein, donc, Constellation, hein, aux éditions de l'Éclat, hein, trajectoire évolutionnaire du jeune 21e siècle, en 2014. Saison, hein, Nouvelle de la ZAD, parce que le collectif Mauvaise Troupe est plutôt lié aux zadistes. Et notamment, hein, sur la ZAD, donc notable là, contre la construction du TGV Lyon-Turin. Et puis vous avez un autre groupe, hein, qui est le courant communisateur, mais on va laisser tomber. Alors, par rapport à la première période des années 70, il y a des saillances nouvelles, hein, dans cette mouvance ultra-gauche. D'une part, des mobilisations, hein, qui... Mais peut-être que ça va, enfin, c'est peut-être en train de changer avec Macron, hein, qui avait plutôt délaissé les thématiques anticapitalistes au profit des thématiques des libertés. avec la dénonciation de la répression, la question de la biométrie, ce qu'ils appellent le fichage, le flicage généralisé. Aujourd'hui, les compteurs Linky, qui font l'objet quand même de pas mal d'actions. La dénonciation des frontières avec les groupes No Border, la défense des migrants, etc. Donc, plutôt la question des libertés que l'anticapitalisme des années 70, mais je pense aussi en train de changer. Deuxième science nouvelle, c'est la croissance des thématiques écologistes qui conduisent à une politisation des modes de vie, avec une certaine tendance à la sortie du système pour former des communautés de vie alternatives dans les ZAD ou dans le retour à la nature. Des thématiques écologistes renouvelées sous l'influence des éco-warriors britanniques essentiellement, jusqu'à la cause montante et certainement la cause là, qui commence à justifier... c'est assez nouveau en France en tout cas, le recours à la violence qui est donc les animalistes, le mouvement antispéciste, qui a donné lieu la semaine dernière, enfin 15 jours, maintenant à pas mal de coups d'éclat, dont un abattoir qui a été incendié, heureusement de nuit. C'était dans la nuit du 28 au 29 septembre, je crois. Et puis. Troisième science nouvelle, c'est un nouveau féminisme radical, très inspiré par le black féminisme américain et donc les thématiques de l'intersectionnalité, donc de la cumulativité des dominations. Et ce féminisme radical, on l'a vu notamment dans l'importance et la croissance des femmes qui participent au Black Bloc. Avant, c'était quand même des Black Blocs très, très, très masculins. On a de plus en plus de jeunes femmes qui rejoignent les Black Blocs. Alors, l'ensemble, c'est beaucoup dire parce qu'il y en a peu, des travaux existants en mettant en lumière le socle commun, essentiellement pratique, de la mouvance, son caractère inorganisé, qui la distingue du courant anarchiste, même si ils peuvent partager certaines références, ce qui explique la porosité croissante entre les deux, et puis les étiquettes que l'ERG leur affuble, ou comme anarcho-autonome, etc. D'autre part, des espaces de rencontre, qui fait qu'il y a une grande circulation, et ces espaces de rencontre, eh bien, ce sont les ZAD, ce sont les squats, ce sont les luttes communes, notamment contre les centres de rétention administrative des sans-papiers, contre la biométrie. Donc ça conduit ces militants à se côtoyer, quelquefois de façon conflictuelle. Et puis évidemment, troisième point, c'est la valorisation de l'action directe, qui est le principal sujet de querelle avec les autres militants d'extrême-gauche, qui les assimile, qui pourrait les assimiler en tout cas aux anarchistes individualistes. Alors, maintenant, quel rapport... Il me reste combien de temps?
Un quart d'heure encore, à peu près.
D'accord. Ça va. Alors, le rapport...
5 minutes avant.
D'accord. Le rapport à la violence et son effectivité. Alors, je vais peut-être zapper cela. Pourquoi j'évoquais ça en un mot simplement, c'est que souvent, on confond radicalité et violence. Un groupe radical serait nécessairement violent. C'est faux, à mon avis. Et je trouve que même si elle est de circonstance, cette loi sur les groupes de combat et les milices privées a ceci d'intéressant, qu'elle dissocie justement radicalité et violence. Mais bon, éventuellement, on y reviendra. Je vais plutôt partir d'un travail en cours qui est... une autre ANR qui est l'ANR Vioramil pour violence et radicalité militante, une recherche pilotée par François Audigier, qui est un spécialiste du SAC, que certains d'entre vous peut-être connaissent. C'est un programme de recherche de type corpus, où donc on élabore un corpus des violences militantes hein, sur la période de 1986 à nos jours, qui consiste à lister les faits de violence sans recourir à l'étiquette de terrorisme, hein, donc tous les faits de violence, que des plus graves, les assassinats, aux plus légères, hein, que sont les obstructions. Donc on étudie ces violences radicales militantes hein, dans le cadre de 5 types de mouvements. Les politiques de gauche ou de droite, donc ultra-gauche, ultra-droite, hein, c'est ceux qui vont m'intéresser ici. Hein, les organisations indépendantistes ou anti-indépendantistes en France métropolitaine. Les mouvements confessionnels radicalisés, alors c'est pas que les islamistes, hein, c'est également les intégristes. Les mouvements sociétaux, comme les commandos anti-IVG, mais également les ZAD, il y a des porosités, hein, évidemment. Et puis les mouvements de type syndical ou corporatiste, qui peuvent connaître donc des faits de violence. Les sources, quelles sont-elles? Elles sont variées. Sources policières, on en a quasiment pas parce qu'ils ne veulent pas nous les donner. Sources judiciaires, médias, bases de données, travaux universitaires ou archives personnelles. Et puis les faits, évidemment, sont recoupés. Hein, et puis, si on n'arrive pas à les recouper, on ne les prend pas en compte. Alors, c'est une base donc, statistique en cours hein, qui sera ensuite, quand on doit la terminer l'année prochaine, sera rendue publique. Oui, c'est un travail titanesque. Hein. Et on ne prétend absolument pas à l'exhaustivité. Hein. Ça va sans dire. Hein. Je vous livre les derniers chiffres hein, que j'ai sortis hein, de cette base à la demande, pour tout vous dire. En fait, je me suis concentrée sur les politiques et surtout sur les agressions, parce que j'avais été sollicitée par la famille Méric pour les aider l'avocate hein, à la constitution de. Donc je suis retournée voir les chiffres en question. Donc comme vous le voyez, hein, aujourd'hui, en septembre, on avait à peu près 2820 faits. Alors, cette base confirme tout d'abord la contribution très supérieure des groupes indépendantistes, puisque comme vous pouvez le voir, hein, sur les 2820 faits recensés à ce jour, 1807 leur sont imputables. À 80%, ce sont les Corses, suivis des Basques. Et parmi les 700 faits politiques, les violences commises par les groupes de droite contribuent pour plus du double aux violences commises par des groupes de gauche. Donc ça, c'est, je pense, très important hein, parce qu'il y a une tendance à l'invisibilisation des violences qui émanent du Front National, des identitaires et quelquefois des groupes néo-nazis. Hein, on a ça quand même hein, en France aussi. Hein, et puis ça va malheureusement se développer. Alors les autres, comme vous voyez, ça vient très loin derrière. Hein, mais à ce stade de la récolte, il y a des effets de source. Pourquoi ? Parce que les violences indépendantistes sont recensées dans leur quasi-intégralité, parce que dans le groupe de recherche, il y a quelqu'un comme Xavier Crétier hein, qui a fait sa thèse sur les indépendantistes corses et basques et qui disposait déjà qui avait déjà recensé tous les faits ou quasiment tous les faits de violence. Et puis ensuite, on a donné priorité aux politiques. Parce qu'il y a Nicolas Lebourg, spécialiste de la droite radicale, dans le projet, moi pour la gauche. Donc on a laissé un peu tomber les religieux et puis les autres. Et donc là, on embauche quelqu'un pour nous aider parce qu'on ne s'en sort plus. Donc il y a des effets de source, hein, très clairement, même si la prédominance des indépendantistes, là, ne fait aucun doute. Alors, ici, je vous ai mis, en fait, c'est une erreur, hein, c'est pas 86-2018, on s'arrête à 2017. Donc, les types de violences, hein, comme ça, vous voyez tout ce qu'on... affrontement, agression, obstruction, etc. Hein. Alors, en première ligne, c'est l'ensemble, et puis en second, dont les groupes qui nous intéressent, les groupes politiques. Voilà. Alors, par rapport aux autres groupes indépendantistes, sociétaux, etc., hein, les faits de violence des politiques font la part belle aux affrontements et aux dégradations dans une proportion assez proche des syndicalistes ou des groupes corporatistes. Alors, les victimes... alors avant il y avait marqué les assassinats, mais en fait il y a heureusement très peu d'assassinats, donc c'est des victimes qui ne tombent pas donc d'une attaque préméditée, planifiée, hein. Donc les victimes et les attentats les rapprochent en revanche des groupes indépendantistes, hein, avec comme vous le voyez, hein, 29 victimes par exemple. Mais cela étant, hein, eh bien, ce sont les groupes de droite radicale qui contribuent aux faits de violence pour plus du double, hein, que les groupes de gauche. À l'exclusion des 4 victimes d'Action directe, bon, Action directe a fait plus de victimes, mais nous on commence en 86. Donc on a 4 victimes d'Action directe, hein, sur cette période, hein, eh bien, c'est la droite radicale qui est responsable des 25 autres décès recensés sur le moment, sur la période. Et un seul relève de l'assassinat proprement dit, c'est-à-dire d'un homicide volontaire et prémédité, hein, qui a été revendiqué par le groupe néo-nazi alsacien Tiwaz 1882. Je ne me souviens plus pourquoi, enfin d'où vient, hein, donc c'est un membre de ce groupe néo-nazi, hein, qui a tué un marchand de tapis marocain. En Alsace. Hein, où j'en suis, voilà. Une place particulière, hein, doit être faite également aux agressions. Dans la mesure où, comme vous pouvez le voir, hein, les groupes politiques fournissent la grosse majorité des 278 cas d'agressions. Hein, sur les 278 cas d'agressions recensés pour le moment, 203, ce sont les politiques. Alors là aussi, hein, donc, dans le cadre du procès Méric, hein, évidemment, je me suis attachée particulièrement aux catégories affrontements et aux catégories agressions. Elles proviennent là encore de très très loin, hein, des rangs de l'extrême droite radicale, si l'on exclut 10 faits de groupes de gauche, dont seuls 2 dans ces agressions ont été clairement identifiés en Action directe. Parce qu'on va voir un des changements, c'est que maintenant, il n'y a plus de revendications. Voilà. Ou il y a des revendications totalement fantaisistes. Hein. Et donc, Oskan Gasser, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui était là, donc entre 84 et 92. Donc, j'y reviens. Hein. Et ces agressions, hein, sont... ces quelques agressions, hein, de gauche sont tous contre les forces de l'ordre en marge de manifestation. J'ai oublié de dire, et je m'en excuse, que cette base de données ne travaille pas sur les violences au cours de manifestation. Parce que alors là, d'une part, on n'a pas accès aux mains courantes des manifestations. Hein, il faut faire la demande et elle nous serait refusée. Et d'autre part, c'est titanesque, hein, comme travail. Mais par contre, en marge, oui, hein, on l'a fait. Alors, donc, on a 10 agressions par les groupes de gauche. 3 du fait de la Ligue de défense juive, 1 de la Tribuca, qui est un groupe suprématiste africaniste, hein, 8 faits aux auteurs non identifiés, hein, et 13 faits dont sont victimes des militants du FN. Les auteurs n'ont pas été identifiés, mais en général, c'est dans le cadre de campagnes électorales. Il y aura un travail intéressant à faire sur les violences qui donnent lieu au cours des campagnes électorales. Parce qu'en fait, beaucoup des faits d'affrontement ou d'agression, hein, c'est entre des couleurs d'affiches. Mais pareil, souvent, on n'en entend pas parler, quoi, ou très peu. Hein. Alors, en dehors de tout cela, hein, donc ça fait 10... pour la gauche, 8 non identifiés, etc. Et bien, tous les autres, ce sont des groupes d'extrême droite ou d'ultra droite. FN d'abord, identitaire ensuite. Voilà. Alors, j'en viens évidemment à mes groupes. Hein. Donc, vous voyez déjà, bon, si j'ai présenté ça, hein, c'est que contrairement à l'image qui est renvoyée par les médias et à l'inquiétude considérable là, des RG, parce que j'ai commencé par, voilà, on a un groupe pré-terroriste, etc., eh bien, cette attention, cette focalisation sur la violence d'ultra-gauche, eh bien, ce travail, même s'il est en cours, hein, bon, montre bien que c'est très loin de la réalité et que la réalité, eh bien, elle est occultée. C'est l'importance et la croissance, d'ailleurs, je ne peux pas marquer là, des violences, donc des groupes d'extrême et d'ultra... ah oui, non, mais c'est bon. Tu vois, j'ai plus que ça. D'ultra-droite. Alors, cette violence de gauche, donc, elle a connu de très, très notables évolutions dans ses modalités, hein, entre les violences d'extrême-gauche des années 70 qui m'occupaient auparavant, hein, puisque là, au XXe siècle, hein, cette violence se manifeste par des attentats revendiqués, hein, par des organisations constituées clandestines, et à ce titre, évidemment, cloisonnées. Hein. Donc, on a les attentats d'action directe, hein, sur la base, on en compte 16 attentats, hein. On a les attentats de deux groupes autonomes. C'est les deux seuls groupes autonomes qui ont commis des attentats au XXe siècle. C'est Black War, la guerre noire. Hein, 12 attentats. Vous en avez entendu parler ?
Jamais.
12 attentats, quand même.
Je ne suis pas le meilleur témoin.
Entre 86 et 88, donc après l'arrestation des membres d'Action Directe. Donc vous voyez, c'est quand même important, hein, 12 attentats en 2 ans. Et puis un autre groupe, hein, qui s'appelle le groupe Gracchus Bapeuf, et qui a commis 8 attentats entre 89 et 91. Alors eux, particulièrement contre les églises. Hein,
Ça sent l'anarchisme, là, quand même.
Oui. Et puis, anticlérical. Et puis on a un autre groupe, hein, qui sont les FTP, les francs-tireurs partisans, hein, qui est un groupe, alors un micro-groupe en fait, hein, presque deux personnes, hein, localisées sur Marseille et qui ont commis 14 attentats entre 91 et 98, exclusivement contre des sièges du FN ou le domicile de leaders du FN sur Marseille. Donc, mouvance antifasciste. Il faut arrêter, Péra a été arrêté. Alors, ça, voilà, ça, c'est des attentats classiques, on va dire, hein, organisés, revendiqués, sur une cible bien définie, etc. Aujourd'hui, 21e siècle, hein, eh bien, on a essentiellement des dégradations, des affrontements, je le disais, hein, en particulier, hein, justement, entre les antifascistes et l'ultra-droite. Mais ce qui est intéressant de noter, parce qu'évidemment, l'avocate voulait surtout savoir ça, hein, c'est que, pour ce qu'on en sait, bien entendu, hein, parce que c'est évidemment... c'est très rarement à l'initiative des antifascistes. C'est plutôt eux qui sont attaqués. Ça a été un enjeu du procès, d'ailleurs. Des affrontements, etc., hein, par les antifas, ou et surtout par des groupes informels, hein, qui souvent n'ont même pas de nom, hein, qui empruntent des sigles complètement improbables, complètement loufoques, et qui n'ont pas de revendications explicites. Et d'ailleurs, on a du mal on a de plus en plus de mal à déterminer la dimension politique ou pas de faits, hein, qui sont recensés sur plusieurs sites ultra-gauche, hein, et donc en partie endossés sous le registre du thème de la guerre sociale. Et on voit là effectivement que cette mouvance française de l'ultra-gauche, hein, elle a vraiment un parfum anarchiste, hein, puisque quand elle valorise la guerre sociale, comme elle appelle la guerre sociale, ben, elle reprend le journal éponyme, hein, fondé par Gustave Hervé, hein, qui, entre 1906 et 1916, rassemblait des syndicalistes révolutionnaires et anarchistes antimilitaristes, hein, qui s'appelait la guerre sociale. les attentats hein, ou les dégradations, hein, eh bien, quelles sont les cibles privilégiées ? Sans revendication, hein, ou des autonomes, ou des anarchistes, voilà, simplement. Eh bien, ce sont les sièges des partis politiques, qui sont quand même pas mal visés, hein, Parti Socialiste et maintenant En Marche, les grandes entreprises, Engie, Areva, ERDF, ça c'est dans le cadre des luttes contre la biométrie, contre les ondes magnétiques, hein, contre ce qui est considéré comme une intrusion croissante dans la vie privée, le flicage généralisé, comme ils le disent. Hein. Et puis, vous avez eu l'affaire, hein, bon ça je pense que vous vous en souvenez, hein, qui est une affaire quand même très lourde, on va dire, l'affaire de Valmy. Vous vous souvenez, les inculpés du procès de Valmy ? Non. Ben en fait, l'année dernière, hein, en septembre 2017, hein, il y a 9 personnes qui ont été passées en procès pour l'attaque d'une voiture de police au quai de Valmy.
Ah, le quai de Valmy. Moi, je cherchais la grande victoire des révolutionnaires.
Le quai de Valmy, oui, oui. Hein, donc en marge d'une manifestation le 18 mai 2016. Hein, donc, cette voiture de police a été attaquée d'une façon extrêmement violente. Hein, 6 personnes ont été condamnées à de la prison ferme, hein, allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Eh bien, cette affaire, autour de cette affaire, ça a provoqué énormément d'actions en solidarité avec les inculpés, hein, puisqu'on compte à peu près 70 actions, hein, qui ne sont pas toutes violentes, hein, mais il y en a une quarantaine qui étaient violentes par des dégradations ou par un mode d'action qui est vraiment privilégié, enfin, aujourd'hui privilégié, hein, c'est mettre le feu, quoi, hein, mettre le feu, attaque avec des bouteilles incendiaires. Bon, ils sont même allés, vous savez, hein, jusqu'à provoquer des incendies de gendarmerie, hein, en Isère et en Haute-Vienne. Hein, ce qui là peut faire penser qu'il y a un passage dans la radicalité qui est en train d'être accompli quand même, hein, parce que même si, comme pour l'abattoir, hein, c'est pour ça que je l'évoquais, hein, qui a été incendié là fin septembre, parce que même si on le fait la nuit, en disant bon bah la nuit il y a personne, bon c'est quand même jusqu'à présent on n'avait aucun ni légitimation ni début d'action contre les personnes, acceptation ça c'est clair, hein, du recours à la violence contre les biens ça c'est clair, c'est légitimé, etc. Hein. Là, on n'est pas encore dans l'attaque directe de personnes, hein, mais on a quand même une élévation du niveau de violence. L'autre élément, je ne sais pas que je veux faire de la prospective, hein, mais qui pourrait là aussi un peu dégénérer, eh bien, c'est compte tenu de la radicalisation, hein, que l'on voit du côté de l'ultra-droite, hein, vous avez vu, hein, quand même plusieurs groupes plusieurs militants qui ont été arrêtés, hein, qui préparaient des attentats, etc. Il y a une polarisation très forte dans certaines villes autour du bastion social. Hein, vous savez ce que c'est le bastion social ?
Non, pas moi.
Alors le bastion social, ça vient en fait, vous savez que l'Italie, c'est pas uniquement parce que j'aime l'Italie, mais enfin, l'Italie est un laboratoire. Hein, alors là, d'ailleurs, c'est pas un laboratoire très engageant, on va dire. Hein, et c'est un laboratoire politique. Hein, et en fait, l'équivalent, on va dire, des identitaires italiens, hein, ont repris une forme d'action qui était de l'extrême gauche, qui sont les squats, les centres sociaux. Et ils ont ouvert ce qu'on appelle Casa Pound. Casa Pound, c'est des centres qui ont été ouverts à Rome, etc., hein, où ils font des conférences, comme le fait l'extrême gauche dans les centres sociaux en Italie, hein, des conférences, mais ils organisent également des soupes populaires destinées uniquement aux Blancs. C'est eux qui ont eu l'idée, avec les identitaires, hein, d'affréter le bateau là pour voilà, pour vous situer.
Pound, et donc, au poète.
Pardon.
Pound. Casa Pound, tu as dit.
Casa Pound. Oui, Casa Pound. Et donc, les identitaires français, hein, parce qu'en fait, dans, comme il y a une transnationalisation hein, de croissante de ces groupes, il y a une compétition entre Italiens et Français pour voilà, le leadership en fait, des liens transnationaux. Hein, et donc, les identitaires français hein, ont reproduit ce modèle Casa Pound et ont ouvert donc, ce qu'ils appellent le bastion social, qui sont donc des lieux. Alors, il y en a à Strasbourg, il y en a à Marseille. Hein, évidemment, c'est, ça cristallise les tensions, bien entendu. Hein, à Lyon également. Hein, et donc, dans ce cadre, on peut craindre qu'il y ait, bah, comme il y a eu en Italie, je ne dis pas dans les proportions en Italie, hein, mais voilà, une radicalisation réciproque de ces deux groupes. Et puis, le troisième, hein, et là, d'une façon très très rapide, hein, c'est effectivement les antispécistes, hein, avec la nouvelle organisation là, qui légitime hein, les opérations qu'elles conduisent et qui regarde beaucoup hein, ses homologues britanniques et états-uniens, qui eux sont des groupes très 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 virulents. Hein. D'ailleurs, les groupes animalistes états-uniens sont ceux qui se sont considérés par le département d'État comme des groupes terroristes parce qu'ils procèdent à des actions effectivement agents enfin incendies, attaques de laboratoires pharmaceutiques, etc. ou en Grande-Bretagne par exemple ils vitriolent des employés quoi. Voilà. Donc oui non c'est très dur, très dur hein, les antispécistes et les animalistes outre-Atlantique. Donc voilà les. Voilà.
Ben merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'était pas évident. Parce que le personnage est très très touffu et tu en as finalement fait un exposé qui a clarifié les choses. Alors bon,
ben, bien sûr,
la discussion va permettre de clarifier encore plus encore. Mais c'est bon, quand on voit cette multitude de groupes, de sous-groupes, d'annexes à des groupes, etc., etc. Et puis des modalités d'action très différentes également. Hein, mm-hmm. Je veux dire qu'il faut saisir. Tu l'as fait dans le temps en plus, ce qui est tout à fait. Fait important. Bon, écoutez, je crois que le plus simple, c'est de donner tout de suite la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Questions, interventions complémentaires. Il y a quand même beaucoup de questions qui.
Oui, il y a le courant communisateur. Mais il est quand même très, très, très marginal, le courant communisateur. Hein. Qui est pour l'abolition de la monnaie et vivre le communisme ici et maintenant, voilà, dans des micro-communautés.
C'est résiduel ou c'est quelque chose de constitué comme les autres, qui ont mis en construction avec les deux autres?
Oui, mais ils sont très en perte de vitesse. C'est autour de gens comme Dové et la revue Meeting ou la revue Cité.
J'aimerais savoir si vous avez procédé aussi par interview.
Ah non,
pas du tout. Vous êtes. Ah quelle est votre position de chercheur là, par rapport à.
Alors, c'est mouvant. Maintenant, on ne peut pas faire de recherche auprès d'eux. Ça, c'est très clair. Autant dans les années, jusqu'aux années 2000 et quelques, il n'y a pas de souci parce que c'est les anciens, si vous voulez, du mouvement autonome des années 70. C'est la mouvance antifasciste, type Scalp, Nopassaran, etc. Autant depuis 2006, ils sont totalement fermés, puisqu'ils considèrent, fermés aux journalistes et fermés aux chercheurs, puisqu'ils considèrent qu'on est des socioflics.
Voilà. Oui. Comme les journalistes, effectivement.
Comme les journalistes. Vous voyez, par exemple, moi, en 2003, bon, c'est dans le cadre des mobilisations altermondialistes, et à l'époque, il y avait beaucoup, la mouvance anarchiste, autonome était présente. Bon, après, elle va quitter le mouvement intermondialiste. On avait fait deux grosses enquêtes, une au Forum social européen qui s'est tenue en novembre, bon, là où il n'y avait pas vraiment les anarchistes. Mais en revanche à la mobilisation contre le G8 à Annemasse et Genève, c'était au printemps 2003, on avait pu faire très très grosse enquête par questionnaire. On avait recueilli, je ne sais plus, 1500 questionnaires, hein, avec une cinquantaine de questions, c'était énorme, hein, qu'on avait fait passer dans le cadre des conférences, mais également dans les villages alternatifs, puisque cette mobilisation, c'était en mai, hein, sur une semaine, à Annemasse, il y avait 3 villages alternatifs, où il n'y avait principalement des jeunes, on va dire. Donc il y avait le point G, qui, comme son nom l'indique, était un village de féministes qui était réservé aux femmes, hein, donc j'ai pu y aller, hein, on n'était pas mes camarades. Il y avait le Vague, le village anti-guerre, alternatif anti-guerre, qui regroupait toutes les mouvances autonomes, anarchistes, antifascistes, etc. Et puis il y avait le Vig, le village intergalactique, où il y avait Vamos, ATTAC, la LCR, enfin voilà, tout ce qui n'était pas... Bah oui, parce que c'était encore dans le lien avec les apatistes, voilà. Donc, moi, personnellement, on était plusieurs, hein, on était une équipe de chercheurs, on est allé au Vague, donc le village anarchiste, etc. On a expliqué la démarche, bon, et ils ont accepté. Bon, après, il y avait des refus, hein, mais on n'a pas été mis dehors. Donc c'était encore possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Paolo Stupia, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui a fait un travail sur les tracts de cette mouvance en 2006. Qui en était pas totalement étranger, on va dire. Bon, il s'est fait menacer quand même. Hein. Donc, non, c'est très difficile. C'est très difficile. Et en tout cas, très clairement, on ne peut plus sortir de questionnaires ou d'enregistreurs. Donc, comment. Alors, ce qu'on a beaucoup quand même, c'est que. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui en sont. Parce que comme je suis spécialiste des mobilisations, etc., j'ai tout le temps des étudiants. Alors, c'est intéressant parce que ça montre les vagues, c'est-à-dire que dans les années, parce que maintenant ma carrière est déjà un peu longue, on va dire, dans les années, quand j'ai commencé, donc c'était
quand Scalp,
Non, c'était plutôt la SR. Après, oui, c'était la LCR, là, c'est un public de militants de la LCR. Après, j'ai eu effectivement plutôt des anarchistes. Maintenant, j'ai plutôt des autonomes qui volontiers voudraient faire travail de recherche sur leur propre expérience, ce qui donne en général de mauvais résultats, mais on en a des bons résultats. Donc, et là, c'est de l'ethnographie, c'est de l'observation participante, si vous voulez. Moi, je continue à avoir des liens corrects avec les vieux, c'est-à-dire ceux de ma génération, hein, qui réussissent à avoir des liens, et à discuter avec les jeunes, parce que bon, et c'est par ce biais que j'ai des informations et par les sites. Mais j'irai pas avec mes questionnaires ou dans ces mouvances actuellement.
Même les zadistes. Parce que Notre-Dame-des-Landes, il y avait quand même une part. Enfin, ils étaient très. Ils étaient, puisqu'on les a virés, je ne sais pas où ils sont maintenant. Mais il y avait ceux qui voulaient vraiment avoir rien à avoir avec personne, et puis il y avait les autres, au contraire, de montrer les réalisations qu'ils ont fait.
De toute façon, dans l'expression zadiste, il y a plein de profils. Il y a d'abord les résidents. Et quand les journalistes parlent des zadistes, etc. En fait, ils parlent plutôt de ceux qui viennent ponctuellement, parce qu'il y a, ils voyagent beaucoup ces groupes, hein, donc ils viennent ponctuellement à l'occasion d'une manifestation, etc. Donc évidemment, travailler sur les résidents, c'est pas la même chose que de travailler sur ceux qui circulent. Cela étant, travaux sérieux sur les ZAD académiques, j'en vois pas. Enfin, je vais être dans une soutenance de thèse sur la lutte NOTAV, TGV. Donc là, je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais c'est extrêmement.
Donc votre matériel, c'est surtout tracts, bouquins, enfin les revues qu'il faut.
c'est... Bah, tout ce qu'ils le postent, parce qu'il y a énormément de choses sur leur site.
Pour l'Azad, il y a un film qui est sorti. J'ai vu à la Maison du Métallo. Et alors, il était limité à un truc comme vous dites, c'est-à-dire il est limité pour la partie des ceux qui étaient sur place, c'est-à-dire les paysans qui étaient sur place, et une partie seulement des résidents qui ont bien voulu se laisser. Mais ils ont laissé quand même une partie, enfin, le film était fait de telle façon que les personnes qui ne voulaient pas apparaître n'apparaissaient pas. Donc c'est coupé, etc. Mais il est significatif quand même des relations qu'il y a pu y avoir entre les résidents
et les voyageurs. Les paysans. Donc c'est sur les sites, ils mettent c'est quand même beaucoup des intellos, hein. Donc ils mettent beaucoup de choses sur les sites, des tracts de revendication d'action, etc. Quoi. Mais des fois on a du mal, je vous dis. Hein. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un groupe? Bon, voilà. C'est ça la difficulté, hein, quand même. Hein. Après, bah, il y a l'observation quand même dans les manifestations. Bon, là, il y a un travail qui commence là, de sociologie visuelle, en fait, hein. au cours d'émeutes, de processus émeutiers, hein, c'est-à-dire travailler à partir de photos et de films. Voilà. Mais là, c'est de l'observation.
Est-ce que c'est lié à la violence, le fait que, si on regarde bien les mouvements d'extrême gauche des années 70, les leaders étaient bien identifiés. Bon, Krivine, si je prends par exemple la gauche prolétarienne qui était extrêmement violente, leurs leaders, on les connaissait parfaitement. Benny Lévy, Le Bris, Le Dantègue, etc. Bon, aujourd'hui, justement, il n'y a plus la figure du leader. Il y a une espèce de quoi.
Ça dépend dans quel groupe, parce que tu vois le groupe de les Tikouniens, la figure de Koupa, elle est centrale.
On le voit jamais. Dans les médias, c'est ce que je voulais dire, c'était porter un message et un visage au travers des médias auprès de l'opinion publique. Or, Koupa, c'est quelqu'un de pratiquement fantomatique.
Oui, c'est pas dans les
médias. Il refuse toute interview, il refuse...
Oui, c'est pas dans les médias...
Non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Cette fonction d'entrepreneur de mobilisation collective qui s'adressait à l'opinion publique en général aujourd'hui semble ne
Oui, mais parce qu'à mon avis, il y a une grande différence. C'est que.
De la même manière que chez les zadistes, alors cette fois les radicaux, ils s'appellent tous Camille. Quand un journaliste les interroge, c'est Camille. Bon, donc il y a un effacement. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant dans l'évolution des mouvements, disons, plus ou moins marginaux en termes politiques.
Oui, parce que je pense qu'il y a une différence fondamentale. C'est que dans les années 70, l'extrême gauche, ce sont des militants. Et les militants, ça a une dimension de prosélytisme. Hein, voilà. Porter la bonne parole, etc. Eux, ce sont des activistes. Ils ne cherchent pas à faire plus nombre, etc. D'ailleurs, ils ont même une tendance à l'entre-soi, voilà. Hein, dans des moments, des communautés, etc. Quoi. Ils ne sont pas dans la propagande. Quoi. Donc, c'est assez différent, me semble-t-il.
Oui. Est-ce que vous arrivez à identifier les activistes, justement, leur sphère d'influence? Je pense au Black Bloc, par exemple. Il y a une forme de sympathie, quand même, autour de ce mouvement-là. Est-ce qu'on arrive à mesurer
concrètement,
ou c'est impossible?
On ne peut pas le mesurer. Alors, il y a, en même temps, dans cette mouvance, justement, il y a une discussion sur le Black Bloc. En disant, est-ce que finalement cette stratégie, est-ce qu'elle est intéressante, quoi. Donc c'est pas la question de la violence qui fait débat. Ça, tous considèrent que la violence, d'abord pour eux, c'est de la contre-violence. Bon, ça c'est classique. Hein. La violence première, c'est le capitalisme. Hein. Bon, donc eux ils se considèrent pas comme non-violents, mais enfin bon, et c'est de la violence. La contre-violence. Hein. Et cette violence, elle est légitimée. Légitime, etc. Mais la stratégie des Black Blocs fait débat dans ces groupes. Et ça, c'est... Ça débat beaucoup. Bon, après, il y a aussi des lieux que... Bon, on connaît, le CICP, Boulevard Voltaire, etc. Dans la préparation des manifestations. Donc, Il y a un débat sur la dimension spectaculaire du Black Bloc et sur la dimension virilisseuse du Black Bloc. Voilà, l'image que ça renvoie, hein. Mais pas sur la violence. En revanche, c'est vrai que ça exerce un certain attrait, mais en même temps, moi, il se trouve que pour des raisons médicales, je ne vais plus en manifestation violente depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, parce que j'ai un souci et que si j'ai un coup dans la tête, mais j'en ai fait beaucoup auparavant, et puis comme j'avais une certaine expérience, parce que dans ma première vie de chercheuse, à l'occasion de ma thèse, j'étais 2 ans dans le service d'ordre de la CGT, en fait. C'était intéressant, j'étais la seule femme. Donc, j'aime bien ces... mais quand j'allais dans les manifestations, j'allais toujours dans les services d'ordre, ou maintenant dans le cortège de tête. Donc, on voit ce qui s'y passe, etc. Hein, donc, là aussi, on peut avoir... donc, il y a une fascination, effectivement, mais... Parmi les gens qui passent à l'acte, etc., il y en a aussi qui rejoignent ces groupes affinitaires dans le feu de l'action, parce que, et beaucoup d'ailleurs, beaucoup, notamment depuis 2016, hein, avec la loi travail, par réaction, je dirais, épidermique face aux violences policières, parce qu'il faut quand même, pour le coup, là, il y a une rupture dans le maintien de l'ordre. Hein, 2016, il n'y a pas du tout, c'est ce que montrent Jobard, Filleul, etc., toutes les stratégies ailleurs qu'en Europe, c'est à la désescalade, alors que là, ils ont des stratégies qui poussent les gens. Là, à la dernière manifestation, moi, je vous dis, hélas, je ne peux plus y aller, il y a le cortège syndical qui a été gazé, quand même, sans raison, à Rennes, à Paris, etc., quoi. Donc, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes d'ailleurs, hein, qui sont qualifiés de black bloc parce qu'ils lancent un pavé, etc. Bon, puis évidemment, de toute façon, quand on est, mais même moi, quand j'étais au service d'hommes, on est truc un peu chaud, on se protège, quoi, c'est normal, quoi. Qui relève de ça, je pense.
Avec Parcoursup, vous avez regardé, parce qu'il y a eu, toutes ces mouvances. Et
ah bah oui, non, mais quand on est à Paris, hein, on a un bon poste.
Justement, vous avez vu de quoi faire.
C'est pas comme Tolbiac et... Je dis que hier j'étais avec Xavier Crétier là pour le programme sur Rémi, justement. Lui, il est à Saint-Germain-en-Laye, à l'IEP, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Alors que nous, il y a quand même entre Paris 8, Nanterre et Tolbiac, effectivement, on a... disons que vous savez ce qui s'est passé mardi à Tolbiac, non?
Non, j'étais pas là cette semaine.
Ils ont essayé
au printemps.
Voilà. Il y a eu une tentative de blocage à 7h30 du matin. Puisqu'en plus, il y avait la manifestation.
Oui, c'est quand même une forte dépendance par rapport au mouvement social organisé sur des thèmes syndicaux, notamment, alors qu'il existait une extrême gauche extraordinairement violente, qui était totalement anti-syndicale, anti-cégétiste, etc., et qui cherchait une très forte autonomie, hein, je dirais, y compris non seulement dans l'histoire des idées, mais du point de vue de l'occupation de la rue, ou des... Voilà. Ça, je crois que ça s'est quand même fait... Alors, est-ce que c'est lié aussi, peut-être, à la faiblesse, en réalité, de ce que représentent aujourd'hui tous ces mouvements radicaux? À eux seuls, ils n'arrivent pas, en quelque sorte, à faire une occupation de rue suffisante, alors que les plus anciens ici se souviennent des manifs gauchistes du 1er mai, où ça réunissait 20 000 personnes. Tout à fait en marge, sans les syndicats.
Mais l'autre différence aussi, c'est
que... pas violente.
Il y a une forte dimension ludique aussi dans ce rapport à la violence.
Ça, c'est très...
Vraiment...
C'est les hormones. Hein.
À la fois quand ils l'annoncent et quand ils en rendent compte. Et puis dans l'action, même si je vous dis, moi, ça fait 1 an et demi que je ne vois plus en action, si je puis dire.
J'aurais peut-être... Sur l'entraînement de l'action,